Extraculture, c'est l'intitulé d'un projet porté par l'association du même nom, projet qui vise à la création d'un lieu de diffusion et de rencontre autour des arts de l'image en mouvement, à vocation transversale et indisciplinaire. Fondé par Emmanuel Chouin et Jean-François Moulin, ce projet aborde une phase de consultation et de constitution pour agréger à cette excellente idée le maximum de compétences et de volonté. En témoigne cette table ronde qui s'est tenue le 19 avril dernier à l'espace Écureuil à Marseille et à laquelle participaient, outre les fondateurs précités, Jean-Jacques Gay, journaliste et réalisateur, Jean-François Néplaz, vidéaste et responsable du Polygone étoilé, Stéphanie Bars, chargée des relations publiques de la collection Lambert en Avignon, Laurence Rebouillon, présidente du collectif Jeune Cinéma à Paris, et Marc Mercier, directeur des Instants Vidéo. Voici quelques extraits de cette table ronde, introduite par Jean-François Moulin et Emmanuel Chouin.
Donc bonjour, merci à vous tous d'être là. On ne pensait pas qu'il y ait autant de monde, on est content. Donc je suis Jean-François Moulin, Emmanuel Chouin à ma gauche et puis Claire qui est là au premier rang. On est membre de l'association Extraculture. Donc je vais vous présenter le projet brièvement. Tout d'abord, donc, je voudrais remercier les intervenants qui sont là, qui sont venus de Marseille, mais d'autres d'un peu plus loin, pour discuter avec nous tous de la thématique autour de l'image en mouvement qu'on va aborder. Je voulais aussi remercier particulièrement, on va faire les remerciements comme au César, tout ça. Donc Gisèle Bretoskira, qui est rédactrice en chef du journal Zeuxis, qui nous soutient. Et donc c'est toujours appréciable. Également Isabelle Pascal, qui est juriste à la BNF et avec qui on a des relations assez proches et qui nous aide à discuter aussi de ce projet un peu transversal et parfois compliqué. Et puis Marie-Hélène Balivet, qui est rédactrice en chef de la revue Contact de la Chambre de Commerce et qui soutient ce projet aussi en diffusant les informations. C'est toujours important. Je voudrais également remercier la Chambre de Commerce, puisqu'en fait ce projet a été présenté à une journée de rencontre entre les chefs d'entreprise et les programmateurs culturels. Et ils ont désigné le projet Extraculture comme lauréat. Et en ça, ils nous aident à diffuser les informations, à monter le projet, etc. Donc c'est important. Et l'espace Écureuil qui nous accueille gentiment. Donc voilà pour les remerciements. Donc c'est la première réunion publique que nous faisons autour du projet Extraculture et nous avons décidé, plutôt que de parler architecture et emplacement, d'élargir le débat et de parler surtout de ce qui nous préoccupe, qui est en fait le cinéma à réessai, les images en mouvement et un peu toute la problématique qui va se passer autour de la salle, de l'arrivée des nouvelles technologies et de la diffusion. Certains savent peut-être que l'UGC va fermer à Marseille, ça va faire 8 écrans de moins dans la ville. Je crois que c'est important qu'on se mobilise tous pour maintenir une activité cinématographique dans cette ville, même si l'UGC ne correspond pas tout à fait à ce que nous on veut faire, mais c'est quand même une preuve de ce qui nous attend.
Emmanuel Chouin.
Bonjour à tous. Donc avec Jean-Jacques Gay, nous aimerions aborder l'évolution du cinéma face au numérique. Le développement d'Internet et du numérique ouvre un espace, un formidable espace de liberté, liberté de créer, liberté de s'informer, liberté de s'exprimer, d'accéder aux œuvres. Ainsi, l'arrivée du web 2.0 est en train de transformer l'accès et l'achat aux produits audiovisuels. L'heure est déjà à la VOD et au téléchargement légal des œuvres cinématographiques. De même, le développement de la projection numérique en salle va redéfinir en profondeur la filière de distribution du film, par la dématérialisation du support. Et du côté de la création, le numérique donne naissance à une nouvelle forme d'écriture. Donc ces mutations en profondeur interrogent l'identité de la salle de cinéma Art & Essai. Et face à ce vaste chantier, j'ai envie de vous poser la question du visage que prendra la nouvelle génération de salles de cinéma Art & Essai dans les années à venir.
Jean-Jacques Gay.
Alors, bonjour, bonsoir. Je ne suis pas exploitant, mais je vais quand même essayer de vous répondre à l'aune de plusieurs de mes activités. La première, c'est en tant que collaborateur à Zeuxis, qui est une revue de cinéma, mais qui établit des passerelles entre l'art et le cinéma. Et en tant que journaliste et en tant que concepteur d'un événement autour de Peter Greenaway, qu'on ne peut pas qualifier de réalisateur de divertissement, mais plutôt d'auteur, et qui utilise ces nouvelles technologies, la technologie numérique. Alors bien sûr, vous comme moi, je pense qu'on allume plus souvent notre DVD qu'on va au cinéma. Donc l'idée aussi est de se poser la question, quand on parle de salle de cinéma, où va le cinéma et où va la salle de cinéma ? Alors, j'ai préparé quelques petites notes là-dessus. Je vais essayer de vous faire un résumé sur tout ça. Alors, Peter Greenaway, comme beaucoup d'autres cinéastes, ont annoncé la fin du cinéma, de but en blanc. Peter Greenaway dit « Le cinéma est mort, vive le cinéma ». Jean-Luc Godard, à une conférence de presse fameuse, dit « La télévision, maintenant, est une diffuseuse d'images. Moi, j'ai tout juste une place de balayeur à la télévision ». David Lynch, lui, tourne en vidéo, en numérique, est producteur, réalisateur, distributeur, puisqu'il négocie avec Canal aussi la distribution de son film, et il fait un film de 3 heures, qui est hors de tous les quotas du cinéma. Et quand on regarde son film, d'ailleurs, on est plus plongé dans une œuvre de... J'aime pas ce nom, hein, je vous le dis tout de suite, de cinéma expérimental ou de vidéo art. Mais on y reviendra, j'aime pas trop ça. Alors, aujourd'hui, deux problèmes se présentent aux salles de cinéma actuelles, classiques, on va dire. Le contenu, que passer, et les investissements. Parce qu'on est à l'aune d'une grande mutation. J'aurais jamais imaginé tout ça, en fait. Je me suis plongé sur ce problème et ces développements en réfléchissant, en regardant le cinéma de Peter Greenaway. Et en interrogeant un peu la commission supérieure technique du cinéma, tous les gens qui travaillent autour du nouveau cinéma. Et le CNC a commandé un rapport récemment à Daniel Godino, qui est un homme de cinéma et de télévision, qui était au CNC, qui travaille pour France 3 Cinéma. Et ce rapport est de but en blanc nommé « Adieu la pellicule ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pellicule. On va évacuer les multiplexes sordides avec les petites salles au bout des escaliers, qui offrent plus de choses à voir, et surtout qui les offrent différemment. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'abreuver à une œuvre, mais on va rencontrer une œuvre. Rencontrer une œuvre avec peut-être des projections accompagnées, peut-être des... L'attrait du cinéma à un moment, c'est son spectacle. Il faut oublier que c'est un spectacle. Donc il y a eu aussi l'attraction au cinéma. Il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était un spectacle. On est un peu parti du spectacle. On a un peu privilégié la rentabilité des salles. Mais il ne faut pas oublier que c'est un spectacle. Donc je pense que c'est aux exploitants de gérer la transition numérique après avoir géré celle du multiplex. Et là, c'est pas sûr que ce soit les mêmes qui gagnent, parce que accompagner un film, c'est pas du. Je pense que les grands réseaux ne peuvent pas forcément le faire. Donc, il reste une porte ouverte, je pense, aux nouveaux exploitants, on va les appeler comme ça. Et je pense que c'est une chance pour le cinéma cette révolution.
Donc Jean-François Desplaz, on a créé la salle du Polygone étoilé en 2000. Et quand je dis nous, c'est un collectif d'auteurs qui avions un souci à l'origine, une volonté qui était pas moderne du tout, qui datait d'à peu près... Qui pouvait être exprimé par Zola, qui, dans mon salon, disait « Moi, public, c'était le point de vue qu'il prenait à ce moment-là, j'exige qu'on me donne dans sa totalité le moment artistique. Moi, public, j'exige qu'on ne me cache rien. » Et il nous semblait que cette vieille proposition n'avait pas été, avait été évacuée par le cinéma. Et nous, comme cinéastes, on avait envie de retrouver cette, un contact direct avec le public, même si nous étions parfois au degré ou de force dans les marges de ce cinéma qui, lui, était distribué en salle et autres lieux. En gros, quand on parle de numérique, aujourd'hui, par rapport au cinéma, on parle de quoi ? On parle uniquement d'industrie. On parle de progrès. On a évacué l'aspect de la création. Et pourquoi on l'évacue ? C'est parce qu'on a pris un retard tel dans ce domaine, en France en particulier, parce que le cinéma français a une place importante en Europe et dans le monde, et on a pris du retard. Alors maintenant, on court et on dit et on fait n'importe quoi. Et surtout, on essaye, là, ce qui est plus grave, c'est que la façon dont on l'aborde, c'est qu'on bloque, on ferme les portes. On essaye de faire entendre que les choses sont écrites, qu'elles sont jouées, qu'on va supporter le XK, et les exploitants vont avoir des investissements importants, etc. Comme si c'était pour nous la chose fondamentale. Ce n'est pas la chose fondamentale. Et ce qui va se passer, personne ne peut le dire. On ne le sait pas. Et quand M. Goudineau, je ne connais pas ce garçon, mais dit adieu la pellicule, je lui souhaite bien du plaisir. Parce que pour l'instant, le phénomène, il est inverse. Par exemple... Le format Super 8 de mes grands-parents, ben, y a de plus en plus de péloches en Super 8. Vous croyez tous qu'il a disparu ? Ben non, il s'est professionnalisé. Que Kodak ait du mal à vendre de la péloche maintenant et préfère investir ailleurs, moi, je suis plutôt satisfait. Enfin, on va voir réapparaître des couleurs qui avaient été liquidées parce que des artisans et d'autres procédés vont pouvoir réexister. C'est l'industrie qui a des problèmes d'investissement. Mais est-ce que ça viendrait à l'idée de dire que parce qu'il y a des synthétiseurs ou on va arrêter le violon, que ça ne fait plus partie des palettes, des outils, des créateurs ? Bon, les exploitants ont des problèmes. Oui, ils ont des problèmes en France particulièrement. Ailleurs, ils peuvent avoir déjà disparu, hein, ils n'ont pas de problème. En France, il y en a et ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes aussi parce qu'ils prennent le train en retard. Ils ont raté la vidéo depuis des années. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, faire de la vidéo, ce n'était pas faire du cinéma. Ils ont raté la marche. Et ils ne sont pas les seuls. Toutes les industries du cinéma ont raté la marche dans ces années-là. Bon, est-ce que l'avenir est ouvert ? Moi, c'est la seule question qui m'intéresse. Ou comment pouvons-nous faire pour que l'avenir soit ouvert ? Pour qu'il y ait une place pour un cinéma dans sa palette, dans sa diversité de création, dans son dialogue entre anciennes et nouvelles techniques ? Oui, ça m'intéresse. Et moi, je pense que l'avenir est ouvert. Il est encore entièrement à jouer. Et que dans cette ouverture des portes, les exploitants ne sont pas encore à l'avant-garde, très loin de là. Et bon, bref. Et il y aurait à dire sur le sujet. Par contre, il y a des acteurs de cette ouverture des portes qui sont les spectateurs. Et qu'on a évacué de toutes ces discussions dans les dernières années. Et j'espère bien qu'à l'occasion de cette réunion et à l'occasion d'autres, on verra revenir ce partenaire indispensable de la création cinématographique et de la création artistique dans son ensemble, celui qui donne un sens à ce que nous faisons. J'espère qu'on va le voir réintervenir dans la discussion. Parce que tous ces débats ont pour objet de le faire disparaître.
Stéphanie Bars.
Alors oui, moi je n'y connais rien en technique de cinéma HD et tout, donc je vais un peu casser l'engouement là, mais bon. Donc moi je viens de l'art contemporain, je parle pas au nom de la collection Lambert, mais je viens de là, ça donne un peu une idée de là où je viens. Et par ailleurs j'enseigne aussi l'art contemporain, je suis chargé de cours à Montpellier, et j'ai des projets personnels de jeune curateur indépendant, collectif ou tout seul. Donc c'est plutôt de ça que je vais, de là que je vais parler. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, moi, c'était le projet d'Extraculture, et c'était l'idée de réunir des gens pour arriver à redéfinir un lieu en fonction d'une pratique. Puisque là, je pense que les artistes contemporains, les curateurs et les producteurs culturels ont fait beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc moi, c'est plutôt le côté dispositif qui m'intéresse et façon de diffuser, de montrer, que ce soit chez les artistes ou chez les producteurs d'art. La première fois qu'on s'est rencontré avec Jean-François, on a visité une exposition et je lui ai montré une vidéo d'artiste. Il s'agissait de Jasper Just, qui est un très jeune artiste qui travaille sur une vidéo très typée cinéma. Et du coup, c'est un petit peu ma génération, et sans remonter très loin, puisque je connais peu l'histoire de la vidéo, enfin, par les livres, donc ça enfoncerait des portes ouvertes, j'ai regardé cette génération des années 90 que je connais, et le premier constat qu'on peut faire et qui est évident, c'est de voir qu'il y a un attachement extrêmement prégnant au cinéma, chez les artistes. Alors, chez des artistes qui pratiquent la vidéo, mais aussi chez des artistes qui pratiquent différentes choses, et qui vont utiliser la vidéo comme un matériau. Donc on en a de beaux exemples en France. Donc peut-être deux exemples d'œuvres, ou deux ou trois, que je vais décrire. Je ne vais pas apporter de discours critique, mais je vais décrire, faute de les voir, on va comme ça imaginer comment on peut travailler sur le cinéma. Donc on a Pierre Huyghe en 1998 à l'Arc, qui est le département art contemporain du Musée national d'art moderne de la ville de Paris, propose une vidéo qui s'appelle Ellipse. Donc vous avez une projection sur trois écrans qui va se faire de façon alternée. Donc sur un premier écran, on voit une séquence d'un film de Wim Wenders, l'ami américain, qui est très centré sur un des protagonistes, qui est l'acteur Bruno Ganz. Une fois la séquence finie, vous avez une deuxième séquence qui se met en place, où on voit le même acteur filmé de façon très amateur, 20 ans après, donc ce n'est plus le film. Et dans cette petite séquence-là, il va passer le pont de Grenelle, qui le reliait finalement de l'endroit où il était, en gros mentalement dans le film, à un autre endroit. Et ensuite, la troisième image se met en route, et là, vous avez l'image qui suit la première qu'on avait vue. Alors là où Wim Wenders avait fait la jonction entre les deux par une ellipse, lui, Pierre Huyghe, s'inscrit dedans et va la matérialiser 20 ans après. Donc vraiment utiliser les films comme un nouveau matériau de création. Vous avez aussi une jeune artiste nordiste qui s'appelle Vibeke Tandberg, qui a notamment beaucoup travaillé sur le film Taxi Driver, et plus proche de moi à la collection Lambert, Douglas Gordon, qui est un artiste écossais qui est un énorme fan de cinéma, qui est assez connu à Marseille, je l'espère, pour avoir notamment produit le film sur Zidane avec Philippe Parrainot l'an dernier. Et donc Douglas Gordon propose entre autres une vidéo qui s'appelle 24 Hours Psycho, qui est une vidéo où vous rentrez, elle peut être exposée de différentes manières, mais ma préférée, vous rentrez dans une grande salle et vous avez un écran qui est en diagonale, suspendu en l'air, assez monumental, donc ça fait réellement écran. La projection est la même des deux côtés et vous avez le film d'Hitchcock qui ralentit de quoi durer 24 heures. Alors, ce qui est intéressant chez ces artistes, à mon sens, c'est qu'ils vont essayer de déconstruire un petit peu le cinéma, ses procédés, et de montrer comment peut-être le public perçoit l'œuvre, la garde en mémoire et l'expérimente. C'est une façon aussi de dire au cinéma et au monde du cinéma de regarder un peu ce qu'il fait et de se positionner à un moment. Alors quand je dis de se positionner, et on a un peu évoqué la chose sur le plan du public qui reçoit une œuvre, qui va s'abreuver, j'ai beaucoup aimé l'idée, je suis entièrement d'accord. Vous avez un cinéma qui propose une œuvre de manière assez autocratique, avec des gens qui regardent, qui au mieux apprécient et encore au mieux comprennent. Là, chez ces artistes-là, vous rentrez dans un dispositif d'installation. Donc vous êtes au milieu du film montré de manière différente. Ce qui fait que vous avez un rôle en tant que spectateur qui est nouveau, qui est beaucoup plus actif, et du coup une responsabilité autre face à l'image que vous voyez. Ça, c'était, je pense, pour les artistes qui m'intéressent le plus. Vous avez aussi des gens comme Christian Marclay ou Francesco Vezzoli qui vraiment utilisent le cinéma comme un DJ utiliserait des séquences de musique, quoi. Donc c'est vraiment un matériau assez important. L'espèce d'intérêt va aller jusqu'à un moment aussi où certains artistes vont, dans des projections tout à fait classiques, mimer la forme du cinéma, c'est-à-dire avoir une esthétique qui se rapproche vraiment de celle du cinéma, proposer des récits qui vont s'allonger, des récits qui vont devenir plus proches aussi de ceux du cinéma, donc plus intelligibles, moins abstraits, et des productions qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Je pense à Isaac Julien qui, pas dans ses premières mais dans ses autres vidéos, a proposé des dispositifs qui sont dignes d'une qualité d'image hollywoodienne. Donc Matthew Barney qu'on connaît assez bien maintenant dans le même ordre d'idées. J'avais vu aussi une vidéo de Chérine Neshat au magasin l'an dernier dans une exposition qui présentait la collection de vidéos de Pierre Hubert qui est un grand collectionneur suisse. L'idée était de donner aux artistes la salle qu'ils voulaient pour projeter leurs vidéos. Donc Chérine Neshat faisait une vidéo qui durait plus de 20 minutes à propos d'une nouvelle d'un écrivain engagé. Et ça devenait un récit de 20 minutes, plus qu'un court-métrage, et dans une salle de 20 mètres sur 10, je crois. Donc on était dans un dispositif qui était celui d'un cinéma, finalement. Et qui nous donnait, une attitude à l'encontre de Douglas Gordon et des autres, d'un spectateur de cinéma. Et aussi l'exemple de Jasper Just, qui est un jeune artiste que j'aime beaucoup, la vidéo qu'on a vue avec Jean-François, où c'est plein de travelling, de moments, de remoments, de lumière magnifique, et de gens qui sont finalement des acteurs, et plus des performeurs ou des artistes qui se mettent en scène. Et puis, dernière chose, dans cette idée que les frontières, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais que les frontières sont très étanches, des artistes comme donc Matthew Barney et Douglas Gordon avec Parreno, qui vont, eux, s'intéresser au circuit du cinéma. Quand Parreno et Douglas Gordon font leur film sur Zidane, il est montré en salle. C'est voulu comme un objet de cinéma. Alors, il est vu la première fois à Bâle dans le stade de foot pour le preview de la foire, donc c'est absolument commercial. Mais ensuite, il va être voulu comme un film de cinéma. Et ça va jusqu'au point où il arrive, 7 mois après la sortie en salle, en tête de gondole à la FNAC. Donc ça, je ne juge pas, je trouve même que c'est assez bien d'avoir poussé le concept jusqu'au bout. Mais voilà comment les artistes vont pouvoir dévier et intégrer des lieux complètement différents. Et on l'a évoqué aussi avec Lynch, moi je l'évoquerai peut-être avec Bruno Dumont qui a fait ce film qui s'appelle Flandre. On voit aussi des moments où les critiques d'art vont aller chercher chez des cinéastes une matière artistique. Alors j'aime pas non plus le mot vidéo art pour parler d'un cinéaste comme si c'était une plus-value pour qu'il devienne artiste, ce qui me paraît absolument débile. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces gens-là restent des cinéastes, mais en tant que cinéastes vont s'emparer de problématiques auxquelles répond normalement l'art contemporain. C'est des problématiques qui sont liées à la représentation critique des rapports au monde dans un premier temps et qui au mieux vont essayer d'ouvrir vers la possibilité de nouveaux rapports au monde. Et ça c'est vraiment au départ pour moi quelque chose qui vient du monde des artistes. Donc tant mieux si le cinéma avec tout son potentiel peut arriver à s'approprier ces rapports-là. Donc après, je passe sur le fait que la vidéo en art peut être caractérisée par une espèce de pluralité de dispositifs. On va de la projection à l'installation avec de la vidéo jusqu'à du document. Le document est assez prégnant. Du document qui va venir renforcer un engagement politique ou social qui sort du musée. Enfin, on est face à des choses multiples et qui, pour moi, sont le symbole qu'il y a un appel qui se fait pour des lieux capables de montrer ces choses multiples. Donc des lieux qui puissent montrer une vidéo projetée, comme accepter une installation, comme accepter un documentaire avec une conférence en même temps. Et l'idée étant de pouvoir arriver à proposer une réelle expérimentation à un public qui va venir et qui ne va pas s'abreuver, mais qui va réellement échanger. Donc j'ai noté quelques lieux, je serai vraiment très, très bref, mais il y a des lieux qui émergent et qui proposent ce genre de choses. Alors je ne suis pas un grand connaisseur, donc j'en oublierai peut-être que vous connaissez. Mais déjà sur le plan institutionnel, vous avez quand même des lieux en France comme le Frénois qui sont assez dans la multiplicité des médiums. C'est un lieu qui est à la fois une école tournée vers l'image en mouvement, à la fois un lieu d'exposition, à la fois un lieu de programmation. Là, sur leur programme, par exemple, cette semaine, vous avez le Zidane de Parreno et Douglas Gordon. À Genève, un lieu qui me plaît beaucoup, qui est le Centre pour l'image contemporaine, qui est un lieu qui est à la fois médiathèque, lieu d'exposition et démonstration de l'image, et qui fait une biennale de l'image en mouvement. Donc chaque année, vous avez cette biennale événementielle qui tourne uniquement autour de l'image en mouvement. Et dans des circuits que moi, je qualifie de plus alternatifs, vous avez des lieux, comme, enfin des associations comme LightCon à Paris, qui est une association qui fait la promotion et la sauvegarde du cinéma expérimental et qui propose aussi, dans des soirées scratch, je vous conseille de tester, de voir de la vidéo, du cinéma expérimental. Et l'avantage de ces soirées, c'est qu'elles sont nomades. Donc elles se déplacent dans Paris à partir d'une idée centrale qui est celle de cette association. Donc ça, je crois qu'il y a aussi quelque chose à jouer dans ce genre d'exemple. Vous avez aussi, alors quelque chose que je connais peu, mais dont on m'a parlé il y a deux jours, la Compagnie à Marseille, pour connaître, donc qui est un lieu, un atelier d'artistes et de création pluridisciplinaire, et qui accepte aussi de la programmation. Je connais Flora Loyau, qui avait fait notamment une programmation, je crois, de films de Bordovitz, qu'elle avait remonté d'une conférence. Donc c'est là où le passage, le relais avec le public devient intéressant, des films de la conférence dans un lieu pluridisciplinaire. Et vous avez à Nantes un lieu qui s'appelle le Cinématographe, qui est assez emblématique, puisque c'est un lieu qui se veut un lieu de rencontre, de découverte, et qui est un lieu qui voudrait former le public à la réception de l'image. C'est-à-dire dans une idée un peu à la Debord, où on serait tous saturés d'une image spectaculaire dont on retire peu de choses, si ce n'est la séduction et l'envie commerciale, on a des lieux qui voudraient proposer aux gens de regarder l'image et peut-être d'accepter d'autres propositions que celles d'une société du spectacle. Voilà. Et pour finir, la saison vidéo, qui en est à sa sixième édition, de Mo Gourmelon, qui a pour base le centre d'art Espace Croisé à Roubaix. Donc voilà pour ce tour d'horizon des pratiques pluridisciplinaires qui mettent en jeu la vidéo et l'image en mouvement. Et je crois qu'il y a un réel besoin de lieux pluridisciplinaires qui puissent accueillir différentes façons de montrer, de diffuser, différents publics, et être honnête avec ces publics et les accompagner dans toutes ces activités. Voilà, je vous remercie.
François Moulin.
Je crois qu'on est passé avec Jean-Jacques Gay du cinéma et là à l'autre extrême de ce qu'on nous offre en tant que citoyen, qui est le musée et l'art contemporain mis dans une proposition, on va dire, parfaite. Hein, imaginons que ça puisse être un mot adapté. Et maintenant, on va passer avec Laurent, Jean-François et Marc à justement un peu la même thématique, mais qui n'est pas faite de la même manière, parce que ce ne sont pas les mêmes moyens ou les mêmes recherches ou les mêmes efforts faits, en tout cas, ou pas dans la même direction. Mais je crois que c'était important de commencer par le côté cinéma, d'aller brutalement au côté art contemporain, justement, la vision de quelqu'un qui fréquente l'art contemporain sans forcément être un expert du monde du cinéma. Et pour en revenir maintenant à justement tout cet... alors, je ne sais pas si on dit intermédiaire, c'est péjoratif, mais tout cet entre tout, entre deux, entre trois. Et finalement, c'est ce qui nous intéresse, de nous occuper de cette diffusion-là et de trouver le moyen de ce qui n'est pas dans les musées ou qui pourrait l'être et ce qui n'est pas encore ou trop dans les cinémas et qui ne devrait plus l'être maintenant. Donc je laisse la parole à Emmanuel qui va faire la suite.
Non, je voudrais simplement rajouter une chose par rapport au projet d'extraculture. Donc, vous l'avez compris, nous cherchons à réfléchir sur un nouveau concept, à renouveler le concept de cinéma de salle art et essai. Mais ce que je voudrais dire, c'est ça, il y a quand même des contraintes économiques en tant qu'exploitant de salles de cinéma, et que le projet d'extraculture est un projet privé. Donc effectivement, comme on l'a vu, ces différentes expériences dont tu nous as parlé, Stéphane, sont peuvent se faire dans des lieux qui sont subventionnés. Enfin, le Frénois est un lieu institutionnel. Là, on va parler donc avec Jean-François, Laurence et Marc de ce réseau alternatif, enfin ou de ce circuit alternatif, sans lequel beaucoup d'œuvres ne pourraient pas ni exister ni être diffusées. Mais moi, j'aimerais les interroger justement sur leur collaboration ou leur tentative de collaboration avec les exploitants. Puisque des collaborations, effectivement, il y en a avec les musées, avec des lieux alternatifs. Mais je sais que certains d'entre vous commencez déjà une ouverture ou un dialogue avec des salles d'exploitation de cinéma. Et en fait, en parlant de votre expérience, j'aimerais que vous abordiez ces difficultés, ces enjeux peut-être d'ouverture vers des lieux privés, enfin des exploitants de salles de cinéma.
Laurence Rebouillon.
Donc bonjour. Donc je vais répondre à la question avant de présenter le collectif Jeune Cinéma ou de dire un peu. Enfin, c'est très proche en fait de l'ICON, qui est une coopérative en fait de cinéastes et vidéastes plutôt vers un cinéma expérimental et différent. Donc c'est en général, enfin c'est de se grouper pour pouvoir diffuser donc des œuvres souvent autoproduites, souvent produites avec des petits moyens pour pouvoir avoir une structure pour pouvoir les distribuer, donc qui peut être distribué dans des réseaux alternatifs, mais donc il peut y avoir des exemples de passerelles dans les salles d'exploitation de cinématographiques plus classiques. Le seul exemple, enfin, ce qui est le plus, on va dire le plus facile, c'est certainement à cause de si c'est des longs métrages, c'est-à-dire qu'en fait les salles d'exploitation de cinéma, on est conçu sur des séances d'une heure et demie. C'est rarement, enfin, il y a pu y avoir des expériences de, que ça soit avec du cinéma classique ou différent, sur une programmation de plusieurs courts-métrages, un peu à la queue leu-leu, plus ou moins pensés et programmés pour une séance d'une heure et demie. Donc s'il y a des œuvres comme ça un peu différentes qui peuvent être diffusées dans des salles de cinéma, c'est souvent conditionné par leur format, enfin par leur durée. Donc il peut y avoir des exemples, enfin à vous citer des noms, je suis pas sûre que ça soit très nécessaire, mais en tout cas dans des œuvres du collectif ou de l'ICON, enfin ou de ce type de cinéma, je vois que cette passerelle-là vers le cinéma, elle est par la durée. Et c'est juste pour donner un exemple après. Sinon, c'est évident que la nécessité d'avoir ce lieu pluridisciplinaire, que ça soit par rapport... c'est-à-dire que soit le cinéma est conçu comme une pratique artistique, et dans ce cas-là, je veux dire qu'on soit vidéaste, cinéaste, artiste plasticien, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté, en tout cas dans les membres du collectif qui peuvent évidemment être de plusieurs formations, c'est-à-dire que soit des vidéos, enfin soit formés par le cinéma, soit par les arts contemporains, leur pratique elle peut être très divers, c'est-à-dire que il y a encore des gens effectivement qui font des films en Super 8 et qui veulent les montrer en Super 8, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité aussi de respecter les supports, c'est-à-dire que c'est très bien le numérique, en même temps d'avoir un lieu dans lequel vous pouvez passer des œuvres numériques faites en numérique pour être montrées, enfin je veux dire c'est bien, de faire du film en 16 mm projeté en numérique, c'est beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi la nécessité de respecter les supports et c'est là aussi où le spectateur comprend pourquoi le cinéaste il persiste à vouloir à tout prix tourner en argentique alors que ça serait tellement plus simple de prendre un caméscope, de faire son film tranquille, je veux dire, et de le diffuser puis même qu'à la maison puisque ça serait plus facile en DVD quoi. La nécessité de c'est à la fois l'idée d'une pratique artistique qui est donnée à un spectateur qui de toute façon il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas intéressé, c'est-à-dire que c'est pas quand on dit cinéma d'auteur plus difficile, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en même temps, dans le, c'est peut-être le cinéma d'auteur parce qu'il a été conçu, relayé par du, par des journalistes ou par la télévision, quoi, en disant c'est ardu, ça peut être chiant, etc. Et tout ça. Évidemment, il y a des œuvres contemporaines d'un cinéma qui peut être chiant, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des bonnes choses partout. C'est-à-dire qu'il y a du cinéma d'auteur qui est insupportable et pas du tout intéressant, et des cinéastes et un cinéma d'auteur qui l'est. Il y a des pratiques de vidéastes. Enfin, le problème, c'est que je pense que le lien, et le, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu un, il y a une sorte d'abîme entre le spectateur de, qui veut pas forcément, enfin, qui aurait plus facilement le, enfin, l'idée du, que le cinéma est un petit peu populaire, on n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études finalement pour aller apprécier un film. Peut-être que pour aller apprécier une œuvre qui a été citée, bah, non plus. C'est-à-dire qu'on peut aussi les prendre. Peut-être qu'il peut y avoir un accompagnement, ou, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'au moins juste d'avoir la possibilité de les voir et de le voir un petit peu plus largement. Voilà. Voilà. Si, après. Après, enfin, c'est, je pense que ce soit à Marseille ou ailleurs ou dans d'autres, enfin, que ce soit à Nantes ou à Lille, ou, c'est-à-dire que des lieux où ce cinéma, enfin, on trouve des lieux pour le montrer, évidemment. C'est-à-dire que ça peut être de manière nomade, ça peut être à un moment un petit peu plus dans le, parce qu'on va faire un festival, puis un autre, donc une édition au même endroit où on va retrouver le, un public qui va revenir. En même temps, l'idée, enfin, ce qui était intéressant, moi, je trouvais dans l'idée de structure, c'était pouvoir justement avoir cette idée de passerelle, c'est-à-dire que de pouvoir mélanger les réseaux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'a intéressée dans le dans ce projet-là, enfin qui m'intéresse dans ce projet-là, parce que en fait, c'est le manque de si on a, enfin, pour que les petits publics puissent être un peu se rencontrent et du coup fassent un petit peu plus gros public. Parce que sinon, de trouver des endroits pour montrer des films, on les trouve, tu vois, même par rapport au type de vidéastes ou de cinéastes qui sont dans le collectif, prendre un projecteur 16 mm et aller dans un squat, c'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est même très facile, quoi. C'est juste que parfois il y a des problèmes pour la réception du son, c'est-à-dire que c'est dommage, c'est-à-dire qu'autant on arrive à diffuser, enfin à montrer une image projetée par, mais la qualité du son, bon ben voilà, on a, c'est un peu tronqué, quoi.
Marc Mercier.
Ouais, je vais profiter de cette discussion, bonsoir d'abord, de cette discussion sur la gratuité pour faire une revendication, parce qu'on a souvent nous-mêmes été confrontés à cette question de la gratuité. On nous demande de faire payer les entrées au festival et on résiste depuis 20 ans. Et voilà, notre revendication, c'est de dire que si les gens vont voir un film pour se soigner de leur stress, quelque chose qui les distrait de leur quotidien, bon, je trouve que c'est normal de payer. On paye un psychanalyste, il faut payer une projection. Par contre, quand on les invite à être non pas des spectateurs, mais des spectateurs, c'est-à-dire des gens qui participent au film avec leur regard, avec leur pensée, avec leur silence parfois, avec les mots qu'ils peuvent prononcer après, je considère que c'est un travail et il faudrait rémunérer les spectateurs. Voilà une première proposition pour Extra Culture. Alors, c'est vrai que quand vous deux, vous avez commencé à parler de ce projet, bon, ça a d'abord été discuté dans des premières réunions qu'on faisait au Polygone avec... l'idée de, déjà cette idée d'ailleurs de créer un archipel, quoi, de regrouper un certain nombre d'associations sur Marseille qui travaillent les images et qui, pour eux, l'essentiel, c'est pas la question du support, bien évidemment, c'est ce qu'il y a au fond d'une image, c'est le souci de créer des conditions pour inventer des nouveaux types de rencontres avec un public. Donc ça a été discuté, c'est là aussi donc, qu'on a commencé à se rencontrer. Puis, moi, ce qui m'a surtout enthousiasmé dans ce projet. Bon, bien sûr, l'interdisciplinarité, tout ça, mais c'est surtout cette idée de où peuvent se rencontrer une culture savante, avec plein de guillemets, hein, je veux dire, une culture savante avec la culture dite populaire. Justement, là, par contre, il faut faire exploser. Là, il y a une vraie frontière entre les deux qui est stupide. Je veux dire, tout à l'heure, quand je racontais nos expériences dans le désert, etc., on s'est tellement aperçu que ça ne veut absolument rien dire. Je veux dire, on peut passer nous, on a passé du Vostel, je veux dire, dans le désert. Les gens ne s'endorment pas. Les gens le regardent. Les gens ensuite en parlent. Et après, ils vous demandent de créer des ateliers parce qu'eux aussi ils veulent faire du Vostel. Bon, on s'aperçoit que c'est souvent jamais là où on s'y attend qu'il y a les réactions les plus surprenantes, quoi. Et je trouve que c'est un beau pari que ce lieu, donc en effet plusieurs salles pour plusieurs salles, qui est des lieux expérimentaux, des lieux peut-être plus, je dirais, plus dans la norme, mais pour que les gens se croisent, pour que les publics se croisent et pour que les artistes rencontrent des vrais publics, les faux publics étant les publics déjà acquis, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que je trouve ça très passionnant.
Le projet Extraculture suit son cours. Pour en être informé, vous pouvez aller sur Internet sur le site www.extraculture.com. Pour prendre contact avec les animateurs de ce projet, vous pouvez le faire par mail à info@extraculture.com ou bien par téléphone au 06 16 91 57 90. Et